Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 483. Nous sommes en octobre 2022 et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir Julien Cadeau d'une part, qui est le, on peut dire, est-ce qu'on dit le terme anglais, COO de Humanoïd. Comment ça va Julien?
Vas-y, oui. Très bien, c'est un très bon terme, COO, qui ne veut pas dire grand-chose et qui veut tout dire à la fois.
Chief Operating Officer. Ouais, je sais. En fait, je vais t'avouer, Chief Operating Officer, c'est pas le CEO, c'est celui qui fait vraiment le travail derrière, c'est ça? C'est celui qui s'occupe des trucs.
Alors, il faut pas le dire,
Ulrich, pardon.
Ulrich ne doit pas écouter l'émission, j'espère. Mais... non, pas du tout. On travaille à trois sur Humanoïd et disons que j'ai un rôle plus opérationnel pour m'assurer que tout le monde travaille bien ensemble, c'est surtout ça.
D'accord, et que tout fonctionne. Merci Julien d'être là avec nous. On a aussi pour cet épisode un invité un petit peu spécial qui sera là pour son segment spécial. C'est Pépé Garcia, l'homme le plus heureux de l'Internet. Comment ça va Pépé? Est-ce que tu es en forme?
Coucou Patrick, coucou Julien. Eh ben, je pète la forme comme gars, je suis super content, j'arrête pas de travailler, donc j'ai plein de trucs à dire, il y a plein de produits à tester. Un voyage à faire, des reportages partout. Franchement, j'en ai perdu mes cheveux de joie, mais c'est le bonheur. Quoi.
J'en ai perdu mes cheveux de joie. Elle est pas mal, celle-là. On disait avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que c'était vraiment une période intense parce que pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Et maintenant, les constructeurs annoncent beaucoup de choses et font beaucoup de présentations. Et donc, tu es tout le temps en train de bosser et de voyager et de voir des trucs. Donc, merci à toi de nous réserver un petit moment pour nous parler des choses.
Que... avec plaisir. Dis-moi, pour résumer ce que tu viens de dire, Patrick, c'est carrément c'est The Revenge. Il se venge. Pendant un an et demi, ils ont dit « Oui, bon, on va vous envoyer les produits par DHL. » Et puis maintenant, c'est « Bah tiens, il y a un reportage à faire. » Et gros, tu montes dans l'avion, on a des trucs à te montrer. C'est la vengeance. Ils sont incroyables. Donc, du coup, on n'arrête pas. Et bah, je suis content pour la profession. Je suis content pour tout le monde. Ça fait des trucs à raconter aux gens. Ça les fait également voir des trucs un peu différents. Là, j'ai mis en ligne des reportages au Futuroscope, des trucs qui sont en train d'être... J'ai préparé des trucs. Il y a vachement de trucs. C'est bien, mais en même temps, c'est la libération d'un coup, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne se freinent plus. Là, ils ont dit, bah, allez, c'est simple.
Il n'y a plus de limite.
Ah bah là, c'est là, comme la chanson. Hein. Non, 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 limite. Là, ils y vont à fond. Et en même temps...
Et bien justement, j'allais dire, du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu des produits que tu as vu, que tu as testé. Alors, tu fais beaucoup d'audiovisuel. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu des produits que tu as vu ou tu as testé. On va dire les trois choses que tu as retenues ces derniers mois. Dans un instant, quand on va lancer l'émission. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les Patriotes qui ont rejoint la formidable famille des Patriotes. Depuis la semaine dernière, il y a Jérémy, Martin et Arnaud qui se sont joints à nous. Merci à vous deux et merci aussi aux producteurs de cet épisode spécifique. Lancelot Devizard et Franck Matignon, les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur la page Patreon. Il est difficile à trouver. Hein. Donc vraiment, rien que pour cette performance, on peut les applaudir. Et merci aussi de contribuer à la vie de cette émission, de soutenir cette émission de manière aussi convaincue. Merci à vous deux, Lancelot et Franck. Et merci à tous ceux qui permettent à cette émission d'exister. Et du coup, on va commencer avec notre première section. On a les grosses news. Et la première grosse news, c'est que Pépé Garcia est là avec nous. Et du coup, on va prendre quelques minutes pour que tu nous parles des trois, on a dit complètement de manière arbitraire, hein, trois trucs qui t'ont impressionné, que tu as retenu, trois produits ou technologies ou des choses ces derniers mois dans ton travail de reviewer, j'allais dire tech, mais audiovisuel le plus actif de l'Internet français.
Ce mot qui date de 1922, ça, audiovisuel. Non.
Non. Alors, comment tu dis, toi ? Dis-moi. Je ne veux pas offenser tes sensibilités.
Mais personne ne m'offense. Mais journaliste high-tech, ça résume tout. Je fais aussi du smartphone, je fais de tout. Donc, non. Audiovisuel, t'as l'impression que c'est vraiment le RTF, quoi.
Mais
maintenant, c'est
audiovisuel, mes amis. Mais j'ai l'impression, tu sais pourquoi, Pépé ? Parce que j'ai l'impression que toi, ton kiff, ton vrai kiff, t'es un super audiophile et un techno, comment dire, tu aimes les images les plus belles, le son le plus pur, et c'est peut-être pour ça que je me dis c'est plutôt audiovisuel, parce que j'ai l'impression que ton amour éclot au plus grand quand tu parles de son et d'image. Mais je me trompe peut-être.
Non, mais c'est bien, c'est très joli, c'est très poétique, c'est de la philosophie extraordinaire, des petites cortesques en plus, donc c'est merveilleux, mais merci, mais il y a ça aussi, mais moi j'aime tout ce qui peut faire flipper. Moi, je suis un homme d'émotion. Donc, tout ce qui peut me donner de l'émotion, que ce soit de l'image, du son, même un mixage, du HDR, tout ce qui peut me donner de l'émotion fonctionne avec moi. Un bel écran smartphone, les pliants, c'est de l'émotion, c'est des choses qui sont différentes. Donc, moi, je ne mets pas des cases. Et je dis, voilà, moi, j'aime les choses qui peuvent apporter des trucs aux gens, même si quelquefois, c'est superflu. Mais il y a beaucoup de gadgets dans l'industrie. Mais même ça, ça me fait kiffer parce que j'ai un peu 2 ans d'âge mental. Donc, si tu veux, quelque part, vaut mieux reconnaître les choses dans la vie. C'est plus simple. On avance beaucoup mieux.
Et bien, alors, du coup, justement, qu'est-ce qui t'a donné le plus d'émotions, qui t'a fait le plus vibrer ces derniers mois dans les choses que tu as vues, ou entendues, les 3 produits ou qui t'ont le plus fait vibrer.
Ou technologie. Et alors Patrick, Julien, alors le truc c'est que ça va, malheureusement c'est pas très, très audio ce que je vais dire, mais on va commencer par un truc que j'ai écouté récemment et qui m'a mis une petite claque dans la tête, et ce n'est pas un produit. Disons que le produit est gros, parce que c'est la première fois qu'on installe du Dolby Atmos dans des voitures,
de façon nette.
Et c'est Mercedes qui s'y est collé, et Mercedes s'y est collé en partenariat avec des gens absolument inconnus, avec Apple Music ainsi que Universal. Des gens qui sont à la rue, ces gens-là, ils augmentent les tarifs pour vivre et tout. Donc, l'odieux personnage. Donc, je suis donc allé voir Mercedes, qui en plus n'est pas au salon de l'auto, puisqu'ils ont loué le musée Rodin pour présenter leur véhicule. Et sur place, il y avait les gens de Dolby, il y avait donc les gens d'Apple Music. Et bien sûr, je me suis pris 12 piqûres, j'ai eu du mal à m'asseoir. Et c'était absolument incroyable. Alors, le truc, c'est qu'en effet, ils ont installé ça uniquement pour commencer. C'est-à-dire, ils ont dit, on va commencer par installer Dolby Atmos dans les modèles les plus chers. Donc, il y a un modèle un modèle SUV dont je ne sais plus le nom, et il y a surtout un véhicule à 250 000 euros qui s'appelle, c'est Maybach, tu dois peut-être connaître ou peut-être...
Oui, les Maybach, oui, tout à fait, oui, c'est des voitures très, très luxe, oui. C'est la voiture de Julien, ouais. En tant que CEO, tu vois, il est...
Oui, bien sûr.
Non, le jour où Maybach fera des vélos électriques, là, il s'en payera. Hein.
Ah, mais je pense... Moi, je n'ai jamais monté dans ces véhicules-là parce que je n'ai personne autour de moi qui a ça. Donc, je suis notamment monté dans la Maybach. Alors, la Maybach, le monsieur, c'est le Florian, qui avait donc installé, qui lui est créateur de l'installation à l'intérieur pour Mercedes, qui est donc quelqu'un de Mercedes, m'a dit, c'est simple, la voiture coûte 250 000 euros, l'installation, on va dire que voilà, c'est tout coûte cher. Alors, ils ont installé quand même, il y a 33 haut-parleurs à l'intérieur, 1750 watts de puissance, des haut-parleurs d'élévation, donc placés carrément au plafond. Et ils ont mis un truc que je n'avais jamais vu dans une voiture, ce qu'on appelle les exciters. Les exciters, ce sont des retours haptiques. Tu sais quand tu appuies sur ton téléphone et qu'il te fait un retour de vibration? Et là, tu as l'exciter dans la voiture. Ça fait que tu ressens la musique de façon osseuse et viscérale, avec une qualité que je n'avais jamais entendue. Donc, je leur ai dit un truc pour les contrarier un peu. J'ai dit, mais c'est un véhicule, quand ça roule, ça vibre déjà. Mais, attention, pas celle-là.
Voilà, ils ont été offensés, là.
Nous, on a besoin de mettre, justement, des vibrations pour bien montrer qu'elles roulent. Donc, c'est merveilleux. Donc, moi, j'ai écouté un son qui était de folie. En plus, ils ne m'ont pas mis que du boum-boum, ils ont mis de la guitare, voix et tout, des trucs comme Taylor Swift. Et j'étais là, j'ai sidéré. Et ils ont dit, ah, on commence par le haut de gamme et on va descendre dans les gammes. Et on veut que tous nos véhicules soient équipés de Dolby Atmos dans les mois et années à venir. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a une demande du public ? Ils m'ont répondu non. Ils m'ont répondu oui, Attends, parce qu'il y a suite, attendez les garçons, il y a la suite. Ils m'ont dit, oui, on a fait une enquête, les gens veulent un bon son dans la voiture. Si vous avez besoin d'une enquête pour ça, j'ai bien sûr qu'ils veulent un bon son.
Non, c'est parce que les gens écoutent le rendez-vous tech, tu vois, dans leur voiture pour les podcasts. C'est essentiel d'avoir du Dolby Atmos. Mais c'est marrant, tu sais, ça me fait penser un vrai. Il y a des gens qui vont peut-être penser que c'est un peu superflu, mais je me demande. Bon, c'est pas directement lié, mais le jour où on aura en 2750 des voitures autonomes pour de vrai et des véhicules autonomes, là, tout à coup, bon, déjà avec de la musique et des choses de ce type-là, on peut l'apprécier quand on est sur la route. Mais encore plus si un jour on a des véhicules autonomes. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour demain, mais tout de même.
La catégorie 5, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Donc, mais le truc, c'est pas. Tu sais, tu m'arrêteras parce que tu sais que je parle beaucoup, j'aime beaucoup vous parler. La catégorie 5, parce que moi j'ai enquêté avec Audi, avec tous ces gens-là sur ce qui est l'autonomie. Ils sont tous un peu d'accord pour dire que techniquement. C'est pas impossible. Par contre, quel est le gouvernement qui va laisser ça sur les routes? C'est un autre problème.
Oui, et puis il faut que tout le monde en même temps y passe et qu'on s'assure que les véhicules soient, enfin que les infrastructures soient prêtes, etc. Donc, évidemment. Encore que catégorie 5, c'est censé être autonome dans l'environnement actuel. Donc, bon.
Tout à fait. C'est-à-dire catégorie 5, tu peux dormir à l'arrière du véhicule dans un environnement actuel. C'est l'idée de base, mais ils disent, voilà, si le problème, c'est que s'il y a le moindre crash qui est causé par un véhicule, quelle est l'assurance qu'il va prendre, comment ça prend, ils disent, voilà, c'est compliqué. Et moi, je suis un mec qui aime la technologie, j'avais essayé comme ça une Audi de sport, c'est-à-dire sur un circuit de course, la vidéo est sur la chaîne, un circuit de course dans une Audi à 240 km/h, je suis en train d'hurler pendant toute la session, le mec, il lâche les mains, il a un bouton rouge, il dit, si ça va pas, j'appuie sur le bouton, mais gros, on est déjà à 130. La voiture qui crisse et tout, et celui-là, il a pas les mains sur le volant, j'ai failli crever. Mais je suis arrivé à bon port, mais tout est prêt, donc elles peuvent le faire. Mais après,
oui, après est-ce que là, eux ils peuvent, est-ce que nous on est prêt à l'accepter, c'est une autre question. Du coup, première chose, le Dolby Atmos dans les voitures avec la musique qui t'a délicatement caressé les oreilles. Deuxième produit.
Ah oui, alors il y a un truc qui m'a plu pour les gens qui voudraient un téléviseur, parce que je parle beaucoup de téléviseurs, tu sais, avec tout ce qui se passe avec Netflix, tout ça, avec le son qui est en Dolby Atmos, avec tout le streaming, avec la grosse qualité audio en 4K, enfin visuel en 4K et autres. Et il y a des gens qui veulent un téléviseur qui soit un peu plus gaming, enfin pas gaming justement, cinéma que gaming. Et moi, j'ai testé un produit qui s'appelle Panasonic, une marque quand même qu'on connaît tous. Hein, Panasonic en télé est très très puissant niveau qualité. Ça s'appelle le LZ2000, qui est un des produits qui, à mon avis, est le meilleur téléviseur OLED actuel, qui est justement capable d'être hybride.
Ah oui, moi, je suis resté au LG qui avait les meilleurs, mais là, c'est encore mieux.
Ah bah, disons que le travail, si tu veux, Patrick, Julien, le travail au niveau du traitement vidéo pour ce qui est le cinéma, dans tous les cas, ce qui est donc hors gaming, fait par Sony et Panasonic, c'est, à mon avis, à aujourd'hui, inégalable. Pourquoi ? Parce que ces deux marques travaillent dans le monde, justement, professionnel. Donc, ce sont les ingénieurs du secteur professionnel qui conçoivent les circuits vidéo des produits grand public pour les deux marques. Donc, tout ce qui est utilisé en pro, les techniques, toute la sauce, toute la cuisine est mise sur ces produits haut de gamme. Ça fait qu'on a un traitement vidéo, mais c'est hallucinant, c'est du cinoche. C'est le LZ2000, c'est du fucking cinoche. Et en plus, avec vraiment une fluidité complète, on a vraiment une très belle image. Et en plus, le LZ est très, très bon en gaming. Ils ont pété les scores en gaming. Donc, le produit est parfaitement hybride, qui fait qu'en effet, les LG restent des modèles étonnants. Les Sony aussi. Samsung est un cador en gaming parce qu'ils sont parmi les plus rapides au monde au niveau de la latence. Mais là, pour les gens qui aiment justement, qui ont encore du Blu-ray, j'espère qu'ils en ont surtout du Blu-ray, qui regardent du streaming avec du haut débit et autres, c'est du miel. Et en plus, je finirai avec justement ce produit pour ne pas vous prendre trop de temps, le LZ2000, c'est toute la série LZ, ils ont du Dolby Atmos avec des cheminées audio placées à l'arrière. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont des haut-parleurs en cheminée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une élévation du son dans la pièce. Ce sont les seuls au monde à avoir ce système. Et c'est pour ça que le téléviseur est plus épais, c'est de l'OLED épais, parce que derrière, il y a tout le système audio avec une élévation, donc avec des cheminées.
Qui a ton approbation. Un système audio sur la télé, généralement, on sait que c'est plutôt moyen. Là, il a carrément ton approbation, le système audio de la télé elle-même.
Oui, Patrick, parce que d'accord. C'est un produit, en fin de compte, c'est une barre de son sur laquelle on a posé le téléviseur avec une cheminée à l'arrière. Et quand on voit le design du produit, donc le LZ2000, c'est un monstre. C'est-à-dire qu'il n'est pas très beau. Parce qu'en effet, on voit l'écran. En effet, le LED en général est épuré. Il n'est pas du tout épuré. En dessous, il y a la barre de son qui est calée dans l'infrastructure. Et quand on le met de profil, on voit qu'il est, il fait 8 cm. Parce que c'est un produit qui est hors norme. Et qui a baissé en prix. Parce que là, curieusement, contrairement à la génération précédente, il a perdu 400 € sur la nouvelle génération. Donc, ils sont un peu plus agréables, si je peux dire. Mais ça reste des produits à 3500 pour les diagonales. 3500, je crois, et 4000, je crois, pour le plus grand, 4500. À vérifier sur Internet au moment où je parle, parce que les prix...
Là, je suis à 5000, je vérifie en même temps, c'est assez cher.
Ah oui. C'est le gros. Je te parle du petit, moi. 55, ouais. Il doit être à 2490. Oui. Il baisse. Il faut voir au bout de 3-4 mois, parce que là, les produits ont été lancés au mois, je crois qu'ils sont au mois d'août, donc, enfin au mois de juillet. Donc, ils ont les temps de mise en stock. Je pense que pour la fin de l'année, ils auront beaucoup baissé. Mais pour les gens qui veulent un bon produit hybride, je dis waouh, quoi. Waouh, voilà Patrick.
Panasonic LZ2000, du coup, toi, tu le recommandes. D'après ce que je comprends, il est bon en gaming avec une bonne latence, mais c'est surtout pour la qualité de l'image que tu l'apprécies, quoi.
Oui, ils sont réputés pour ça. C'est le secteur professionnel, parce que le produit, tel qu'il est, il est vendu en secteur professionnel également pour le mastering vidéo.
Ah oui, les carrément.
Oui. Les mecs utilisent à Hollywood, tu vas dans certains labos de mastering, donc pour l'étalonnage des couleurs, c'est les PANA. Hein. C'est les dalles, les PANA, enfin c'est des dalles LG. Figure-toi que LG Electronics, pour fabriquer, LG Electronics, bien sûr, est l'entité, enfin LG Display est l'entité qui vend les dalles, mais ils ont une ligne de production spéciale pour Panasonic avec un réglage particulier.
D'accord.
Que Panasonic exige. Panasonic Technics. Voilà.
Du coup, LZ2000, j'ai l'impression que c'est ta recommandation du moment hein, sur les gammes de cette année, LZ2000.
Oui, merci Patrick, merci Julien.
Donc juste deux, je croyais que tu allais faire trois produits, mais du coup on en a deux qui te...
Non, mais j'en ai un troisième, mais j'attends de savoir si j'avais encore un peu de temps.
Bah oui, allez, vas-y, le troisième rapidos, et puis on y va.
Je suis super pas original comme mec. J'ai quand même craqué. Je suis un gars. Non, bah attends, mais là, je vais faire dans le commun parce qu'ils vont dire ouais, l'autre, il fait n'importe quoi. Oui, non, je fais pas n'importe quoi. J'ai craqué sur les AirPods Pro deuxième génération.
Ah, d'accord. Écoute, j'ai hâte de t'en entendre parler parce que toi, je sais que tu es sérieux et j'adore mes AirPods Pro 1. Donc, je vais pas acheter les deux parce que je suis raisonnable. Mais oui, j'en entends du bon. Des gens qui sont vraiment convaincus. Et je ne sais pas si je peux leur faire confiance, mais toi, je sais que je peux te faire confiance. Donc, vas-y, dis-nous tout.
Mon petit Patrick, la flatterie, ça ne sert à rien du tout.
Mais c'est sincère, c'est sincère.
Des énormes bombes, quand même, de conneries aussi. Je ne sais pas si tu fais des bêtises. Tu t'en souviens le lendemain. Tu dis une connerie dans un média, c'est souvent le lendemain que tu t'en rends compte. C'est l'horreur. Bon, bref, dans tous les cas. Moi, je ne suis, suis pas un adorateur particulièrement des AirPods, pas plus que des Samsung qui sont donc AKG hein, ou des Bose. Mais là, j'ai eu dans la foulée, j'ai eu à la fois les AirPods, les nouveaux Bose, donc les QC Earbuds 2, et j'ai eu en même temps les Samsung, donc AKG, les Buds 2 Pro. Ils se tiennent tous les trois dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que ce sont trois produits extrêmement concurrents, extrêmement compétitifs. Donc, c'est vraiment des produits qui se tiennent. Alors, il y a des trucs qui sont importants concernant justement, notamment Samsung et Apple, c'est l'intégration dans leur écosystème. C'est-à-dire que ces deux marques étant très, très écosystème, on peut dire que quelqu'un qui aime Android et qui va avoir un smartphone Android Samsung, l'intégration du modèle Samsung, c'est de la folie furieuse, tellement c'est géant. Et même chose, si vous êtes dans l'écosystème justement Apple, l'intégration des AirPods Pro deuxième génération, c'est très très bien fait. Ce que je ne peux pas dire Bose, parce que Bose, lui, ne fabrique pas ce type de produits comme des smartphones. Donc l'intégration est plus compliquée. Par contre, j'ai trouvé justement, puisqu'on parle, le son, on va résumer en disant qu'il est excellent sur les trois. Par contre, j'ai trouvé justement que Apple travaille très très bien quelque chose qui est un petit peu factice, mais qui est tellement flatteur que tout le monde est là, oh là là, même moi qui suis pourtant avec les casques audio à 10 000 boules sur les oreilles, je leur dis, mais oui, mais ça fonctionne, ce qu'ils appellent le computational audio. Alors, c'est un truc où on sait qu'on prend le signal audio, donc par le Bluetooth, et derrière, Apple fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire traiter un signal numérique. Et dans le cas présent, il est enjolivé, il est peaufiné, il est travaillé. Et ce résultat, il est vachement agréable. C'est-à-dire que J'écoute les AirPods Pro parce que je les ai quand même à chaque fois 15 jours sur les oreilles pour chaque produit dans Paris et ailleurs. Et je me dis, mais c'est complètement faux. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Donc, le truc, il est... Le truc, il est génial parce que c'est dynamique, il y a du grave, les voix sont mises en avant, les guitares, l'aigu est affiné par rapport au précédent, c'est-à-dire qu'ils ont fait une montée par rapport au précédent qui n'est pas spectaculaire, mais ils ont rendu l'aigu encore plus fin, donc encore plus flatteur, ils ont fait monter un petit peu le niveau des voix sur les chanteurs, et le grave est encore plus soutenu. Attention, ce n'est pas la même électronique, ce n'est pas les mêmes haut-parleurs, ils ont vraiment changé des trucs, donc le son est encore plus flatteur et agréable que les premiers. Mais ça ne veut pas dire que les premiers sont à jeter, loin de là, ça reste excellent. Mais on sent qu'ils ont, push the envelope, comme disent les Américains. Tu vois, ils ont monté le truc en disant, tiens, on va t'en mettre un peu plus. Hein. Donc,
mais pas trop. C'est parce que souvent, on a l'impression que, sur certains, en particulier sur les basses, les constructeurs ont tendance à abuser un petit peu. D'ailleurs, même Apple le fait avec ses Beats. Là, ça reste agréable. Ce n'est pas qu'ils bourrent à fond,
oui.
Quoi.
Oui, en plus, les trois produits ayant des égaliseurs dans l'application, on peut changer ce qu'on veut. Mmh. Mais naturellement, il faut savoir que globalement, depuis maintenant, j'ai remarqué depuis 3 ans, toutes les marques, dites même de hi-fi, c'est-à-dire les marques de fidélité, poussent sur le gras parce qu'il y a une demande du public. Et notamment, le mixage change un petit peu aussi. Les ingé-sons poussent un peu plus quelque part. Les gens sont habitués à un son plus violent, mais on peut corriger avec les égaliseurs. Mais globalement, c'est vrai que Apple le fait, Bose pousse sur le grave, Samsung aussi, enfin AKG. Voilà. Et concernant la réduction de bruit numérique des AirPods Pro, ils ont encore poussé les choses. Ils étaient déjà à quelque chose qui était une sorte de plafond de verre avec ceux que tu as, donc les pros. Là, ils sont affinés avec certaines fréquences, parce que je ne rappellerai jamais assez qu'une bonne réduction de bruit, c'est une réduction de bruit sur toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on teste, ils réduisent le bruit facilement sur le grave, quelquefois sur le médium, et quelquefois l'aigu n'est pas bien réduit. Donc, quand on voit la linéarité de réduction de bruit des AirPods Pro 2 et des précédents, on peut dire que Apple arrive à gérer correctement une réduction de bruit correcte sur la plupart des fréquences. Bose le fait excellemment bien également avec le QC AirPods 2 qui se tient à un mouchoir de poche des AirPods Pro 2. C'est vraiment parmi les meilleures réductions de bruit actuelles, je veux dire, du monde de l'audio. C'est vraiment les AirPods Pro 2 et les Bose QC AirPods 2, c'est dur à dire, ça tout se mélange. Dans le monde des intras, hein, les casques, ça reste AirPods Max, ça reste des produits comme les XM de Sony. Mais au niveau des intras, on est vraiment parmi les meilleurs, ainsi que les Samsung, donc AKG. Voilà, ces trois produits, à vrai dire, j'ai presque du mal, Patrick, Julien, j'ai presque du mal à les partager franchement, ces trois-là, donc les Samsung, AirPods et Bose, parce qu'ils arrivent au même moment, avec les mêmes technologies, avec la même mouvance sur la signature sonore. C'est vraiment une tendance dans le haut de gamme. On est sur des produits qui sont à 230, 250, 300 euros. Hein. Donc, cette partie-là, on peut vraiment choisir soit Android, soit iOS, les yeux fermés sur ces trois-là. C'est à vous de voir. Mais j'ai beaucoup aimé les AirPods Pro 2 parce que j'ai trouvé qu'ils m'isolaient énormément d'une façon presque dangereuse. Il faut vraiment mettre les modes transparents dans la rue parce que là, maintenant, on arrive à un tel niveau d'isolation que ça devient dangereux.
Tu
ne
vas pas entendre les voitures qui arrivent. Quoi.
Aux gens d'activer les modes transparents. Et pour finir, je tiens à dire un truc concernant les AirPods et Samsung, c'est qu'ils ont des modes d'accessibilité, c'est important pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont des modes qui permettent à des gens qui auraient des problèmes d'audition légers, par exemple, de relever les voix en mode transparent de 20%. C'est-à-dire qu'en audioprothèse, ils peuvent dire on met par exemple les Samsung et dans l'application, tu peux relever l'audition de 20% par rapport au mode transparent classique. C'est important. On peut également utiliser une oreillette ou l'autre au choix et gérer une oreillette seulement. Mettre une réduction de bruit sur une seule. Quelqu'un qui a un problème d'audition sur une oreille et pas l'autre peut l'utiliser en utilisant un seul buzz dans une oreillette et de la gérer. C'est important l'accessibilité. Et notamment, Apple et Samsung travaillent beaucoup dessus. Bose, un peu moins. Donc voilà.
D'accord.
C'est bien dit également.
Super. Bah écoute, voilà. tu ne facilites pas mon envie de craquer pour les AirPods Pro 2. Mais non, je vais rester raisonnable. J'ai déjà les 1, ils sont très bien. Merci beaucoup, Pépé. C'était très sympa d'avoir ton intervention pour ces sujets qu'on évoque peut-être un petit peu moins dans le rendez-vous tech. Généralement, vraiment, la tech consumer, les produits, à part les smartphones et les ordinateurs, souvent, on est un petit peu moins présent. Donc, merci de nous avoir livré tes coups de cœur. On va te laisser repartir, du coup, en Maybach Dolby Atmos vers tes rendez-vous.
Moi, je n'ai jamais monté là-dedans de ma vie. Hein. Quand je suis monté, tu sais, il y a En plus, attends, tu sais, avant de finir, ils m'ont fait un sketch, tu vois. Alors, tu sais, Florent est arrivé, m'a ouvert la porte arrière, me dit, ah, c'est comme si j'étais une superstar. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je suis rentré dans le truc avec, tu sais, les fauteuils sont super, les sièges sont super beaux. Pour finir, il y a un truc important sur le système Dolby dans la Maybach. Il y a un logiciel qui permet d'envoyer le son uniquement sur tel ou tel siège. C'est-à-dire qu'en effet, tu décales la partie binaurale. Et par exemple, tu es assis sur le siège, il n'y a que 4 places, hein. Tu es assis sur tel siège et tu as le tableau de bord qui te dit voulez-vous mettre le son sur tel siège, et il te décale. Le Dolby Atmos, c'est l'endroit où tu es. C'est quand même ouf.
Tu sais, quand je suis dans ma Maybach et que mon chauffeur me conduit à mon prochain rendez-vous, je veux le son spécifiquement pour moi, faut pas déconner. Donc oui, je comprends bien. C'est impressionnant en tout cas. C'est effectivement salé. Assez impressionnant.
La facture est salée aussi.
Oui.
Donc voilà, c'est bon. Ça sera ma vanne nulle de la fin.
Merci beaucoup, Pépé, de nous avoir consacré un petit peu de temps dans ton emploi du temps chargé. On va mettre le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Et bien sûr, vous retrouvez la chaîne sur YouTube,
Pépé World. Par la chaîne qui viennent me voir, les petits loulous. Qui viennent me voir, ils auront des produits à pas cher. À pas cher.
Pépé World sur YouTube. Merci beaucoup, Pépé. À la prochaine, merci du coup. On te laisse retourner.
Merci, bosser. Julien, à bientôt. Merci tous les deux.
Ciao, Pépé.
Ciao, ciao.
Bah merci à Pépé de nous avoir, comme je disais, proposé un petit topo sur... Bah oui, c'est des sujets qu'on traite un petit peu moins, j'avoue. Hein, et du coup, c'est toujours un plaisir d'avoir Pépé dans l'émission. Il vient nous voir de temps en temps. Et il y a une telle bonne humeur qui émane de ce jeune homme. C'est incroyable. Je pense que tous les gens de la scène tech francophone, tu pourras me contredire si tu le souhaites, Julien, sont souris quand ils entendent le nom Pépé Garcia. C'est juste un bonheur.
Oui, je ne contredis pas.
Tu ne contredis pas, tu es d'accord. Très bien. Bah écoutez, on va continuer avec des sujets un petit peu plus sérieux. Je suis désolé, Julien, du coup, tu es resté très, très sage. Je suis un peu désolé de t'avoir...
il a son espace vocal, Pépé. En fait.
C'est ça. Mais du coup...
Il est ininterrompable.
On a des sujets un petit peu plus... un petit peu plus sérieux, mais toujours avec des trucs qu'on n'évoque pas forcément dans l'émission, à tort je crois, mais avant ça, je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech, pour devenir patriote de l'émission. Pourquoi devenir patriote de l'émission ? Et parce que c'est comme ça que l'émission est financée en immense majorité. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et ça vous donne aussi des bonus, hein, des émissions totalement sans pub, sans même ce petit message au milieu, les timecodes, des petits contenus supplémentaires, etc., etc. Je vais faire court aujourd'hui parce qu'on a un gros programme en deuxième partie d'émission. Simplement, si vous écoutez depuis un moment et que vous appréciez l'émission, pensez-y. Ça peut être une décision active, louable, je trouve, de devenir patriote et de soutenir les créateurs que vous appréciez, comme au hasard le Rendez-vous Tech ou d'autres. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right, because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Allez. On passe au reste de l'actu qui est en fait pas mal de choses. On va faire un peu lightning round pour tout ça parce qu'il y a d'abord des sujets que je voulais traiter qui sont divers, mais parler un petit peu de la tech en dehors de l'Occident, juste pour vous donner une petite idée des choses qui se font avec Android Go. sais pas si vous savez ce qu'est Android Go, c'est une version d'Android qui est prévue pour des appareils moins puissants et donc moins chers que ce qu'on trouve ici. On n'en parle pas beaucoup, mais ça représente quand même 250 millions d'appareils dans le monde. La version 13 est en train d'être disponible, enfin, et sera disponible là dans les mois à venir dans les appareils qui sortent. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça donne les appareils sous Android Go, ils coûtent allez, il y en a qui coûtent moins de 100 euros, moins de 100 dollars même. Et ils fonctionnent sur des machines qui ont 1 giga de RAM jusqu'à Android 13. Et Android 13 Go, c'est 2 giga de RAM. Donc, c'est vraiment des toutes petites machines. Et c'est des machines qui sont hyper populaires, évidemment, dans les pays où on a un petit peu moins de moyens, comme par exemple en Inde, où on a également un autre produit qui m'a paru intéressant, c'est le JioBook. C'est un laptop, un ordinateur portable fabriqué par Jio, qui est un énorme géant des télécoms dans le pays, qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est en fait un laptop qui est allé avec des performances, des capacités techniques évidemment limitées, mais qui coûte entre 130 et 190 dollars, en fonction de si on a une réduction par son opérateur ou pas. Et bien sûr, comme c'est un opérateur qui le fabrique, il a une carte SIM 4G LTE intégrée directement. C'est pas une bête de course de nos standards. Par nos standards, il a un écran 11 pouces qui est en 1366 par 768, 2 gigas de RAM, un processeur 2 gigaoctets avec 8 cœurs. Bon, c'est une machine qui fonctionne et qui tourne sur un OS forqué d'Android, donc qui fonctionne avec des applications Android, mais c'est un portable à, comme je vous le disais, avec la réduction de certains partenaires, moins de 150 dollars. Et c'est des choses qui, évidemment, sont populaires dans les pays où on a un petit peu moins de moyens. En Inde, notamment, c'est des choses qui se vendent très bien. À côté de ça, on a Microsoft qui publie enfin une roadmap pour son subsystème, Android subsystème. Donc le fait de pouvoir faire tourner des applications Android sous Windows, c'est disponible en test pour le moment, mais ça va commencer à arriver de manière un petit peu plus sérieuse dans les mois à venir. Puis au niveau du matériel, puisqu'on parle de matériel, il y a l'USB 4 V2. Qu'ils ont choisi de ne pas appeler USB 5, qui double les débits, qui peut monter jusqu'à 120 gigabits, mais en gros 80 gigabits dans les deux sens, et les processeurs Intel Raptor Lake, les nouveaux, qui sont compétitifs avec les processeurs AMD. Alors ça fait beaucoup de matériel tout ça. Julien, est-ce que toi, tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe dans les pays non occidentaux? Justement, tu connaissais Android Go, tu connais les JioBook, les laptops de ce type-là, ou pas du tout?
Complètement, oui, c'est des... C'est une autre manière de faire de la tech qui est assez intéressante parce que finalement, nous, on a une... Si je prends un exemple personnel, mais qui va faire écho chez tes auditeurs et dans ta communauté, mais c'est vrai que j'ai un ordinateur depuis que je suis enfant, que j'ai construit tout seul. Et c'est vrai que l'ordinateur de bureau, ça a été ma première porte vers l'informatique. Un énorme ordinateur sans Internet, hein, on va pas se mentir, la tour, le clavier, l'écran, etc. Et petit à petit, je suis arrivé, j'ai fait suivi l'évolution de l'informatique comme tout le monde en France et en Europe. J'ai eu un ordinateur portable, j'ai eu un smartphone, j'ai eu une montre connectée. Enfin, j'ai tous ces devices qui sont pour moi des extensions de l'informatique que j'ai connues quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'on a une autre manière de s'équiper qui a été extrêmement populaire. Et tu l'as dit, hein, c'est plutôt l'Inde qui est notre modèle là-dessus, c'est que finalement le premier outil informatique que les adolescents, voire les adultes, hein, ont utilisé en Inde, c'est un smartphone. Et à ce niveau-là, ça change beaucoup la perception de ce que doit être l'informatique. C'est-à-dire, par exemple, j'imagine simplement tous les sites Internet qui sont accessibles, toutes les applications ne sont pas des héritages d'un web qui est horizontal, mais sont directement pensés pour être du vertical et oui. Pour être sur des réseaux qui sont bien moins développés que notre 5G ou notre 4G à l'époque. Hein. Donc on était sur, je me souviens qu'Android Go, ça avait été un petit peu comme Facebook qui avait fait ça aussi avec des smartphones et un système d'exploitation qui était très Facebook-centrique. Hein. Alors du coup, ça ressemblait au WAP. Les petits vieux se souviendront de ça. Donc ça ressemblait un peu au WAP, mais en gros, c'était possible d'aller sur cet Internet avec des connexions qui sont similaires au Edge. Donc on pouvait avoir un accès à une culture qui finalement demande beaucoup de ressources quand on y pense, avec des terminaux extrêmement simples et extrêmement peu demandeurs côté réseau et côté énergie.
Ouais,
et je trouve que c'est vrai que ça se développe. Et c'est quand on voit ce qu'est un... Finalement, c'est une sorte de rattrapage technologique, parce que si la situation est comme ça, c'est que l'Inde, par exemple, est arrivée très tard dans les technologies de l'information. C'est nécessaire de passer par des produits comme ça. Maintenant, ils ont un marché qui est absolument unique dans le monde entier.
Ah bah c'est sûr que la taille du pays, parce que la Chine, c'est évidemment très différent vu le système politique, mais la taille du pays est particulière. On nous dit dans la chatroom, c'est mobile first, est-ce qu'on fait des progressive web apps? Mais non, c'est mobile only. C'est ça qui est difficile, oui. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je disais, on fait un petit détour par l'Asie. Et je dis l'Asie parce qu'on parle beaucoup d'Inde. On pourrait dire des choses à peu près similaires sur l'Afrique, qui est également très mobile-centrique. C'est mobile only. Il n'y a pas d'autres moyens d'accéder à Internet dans d'énormes parties de ces pays et de ces continents, dans le cas de l'Afrique. Mmh. Et donc, tout est pensé juste pour le mobile. Et même quand nous, on pense à l'ubiquité du mobile chez nous, on a tendance à ne pas avoir le recul ou la perception nécessaire pour voir comment ça se passe dans un pays où, simplement, il n'y a pas d'ordinateur. Ça n'existe pas. Et il y a énormément d'outils qui ont été développés avec ces équipements à l'esprit. Et quand on parle de l'Afrique notamment, c'est sans doute le cas en Inde aussi, mais moi, je pense tout de suite à M-Pesa, qui est un système de paiement. Et on se dit, là encore, pour nous, d'ici, on se dit, ah bah, système de paiement, c'est cool, c'est genre Apple Pay, je peux payer sans contact. Non, non, c'est pas ça la question. C'est l'accès à un compte en banque, l'accès à un système de paiement.
C'est un compte bancaire complet, oui.
C'est ça. Et c'est-à-dire que sans ces outils-là, on n'a pas accès à un système. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas qu'on a la carte bleue d'un côté et le téléphone de l'autre.
Complètement. Et depuis une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que Apple Pay s'est démocratisé depuis 3-4 ans, max.
Ouais, et dans ces zones-là où les outils sont essentiels, les systèmes de paiement qui n'ont pas, peu importe que ça soit sans contact ou pas, c'est juste qu'on a le compte en banque et on peut envoyer des paiements à différentes personnes, se sont développés avec ces outils-là. On a tendance à oublier leur importance. Ok, on va parler quand même un petit peu d'Apple et de cette présentation des nouveaux iPads qui ont été quand même un petit peu décevants. Ils ont donc la semaine dernière présenté leurs nouveaux iPads, un iPad nouvelle génération et des iPads Pro. Le nouveau a des petites nouveautés, les iPads Pro ont des petites nouveautés, iPad Pro M2, iPad 10e génération avec la caméra sur le côté long, donc si on est en mode paysage, bah on regarde du bon côté quand on est en meeting. Il y a de l'USB-C sur l'iPad 10e génération, ce genre de choses, et il fonctionne avec le même stylet première génération qui est en Lightning, donc ils font encore un adaptateur ridicule dont tout le monde se moque. Avec raison, mais quand même. Moi, ce n'est pas ça qui m'a vraiment intéressé, parce que les iPads, bon, bah, c'est des nouveaux iPads, ils n'ont pas de choses folles. Ah oui, l'iPad Pro a une fonctionnalité survol de l'écran avec le Pencil, et donc l'iPad repère que votre Pencil est juste au-dessus et donc peut avoir des petites interactions comme ça. Bon, ça ne change pas la face du monde. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont fait une mini vidéo de présentation de 9 minutes, qui était en fait une présentation sans grosse keynote. Ils ont fait une présentation de 9 minutes, alors sans les exécutifs, hein, sans Tim Cook, sans tous les gens qui sont venus présenter, mais ils ont présenté leurs produits comme on peut le faire dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, mettre une vidéo, comme le fait beaucoup Nintendo notamment, mettre une vidéo pour présenter les produits qu'ils veulent présenter, et tout le monde les regarde. Et d'ailleurs, je ne vais même pas vous la montrer, cette vidéo, sur le live sur Twitch, parce que Apple fait striker, fait supprimer toutes les vidéos qui utilisent des extraits de leurs vidéos, ce qui fait qu'on ne peut pas commenter en utilisant leur contenu. Bon, journalistiquement, moi, je trouve ça moyen, mais peu importe. Les choses que je retiens plus, il y a, trois choses. D'abord, la baisse de prix de l'Apple TV, la nouvelle version de l'Apple TV 4K, a baissé de prix de manière significative à 150 € en France, je crois, au lieu de 250, quelque chose comme ça, 129 aux États-Unis. Et c'est hyper important parce que ça dénote de la stratégie d'Apple qui veut conquérir un nouveau marché, qui est celui des télévisions, avec notamment son service Apple TV+, mais pas que, hein, parce que Apple TV+ est disponible un peu partout, mais vous faire rentrer dans l'écosystème, je pense. Donc, ils ont arrêté de vendre ces trucs plus chers. Bon, pour compenser, ils ont augmenté les prix en Europe de leurs services comme Apple Music, Apple TV+, Apple One, etc. Donc, soyez prévenus, ça va vous coûter plus cher. Puis, l'autre chose
importante... Attention à la baisse de prix, on perd le port Ethernet. Donc, c'est quand même un sujet, micro-sujet, mais quand même. Et ouais, surtout, on perd la compatibilité Matter.
On a la compatibilité Matter, ça, je ne savais pas, d'accord.
Et ouais, ça, c'est la grande surprise qu'on a eue, c'est que Apple est donc dans ce consortium d'acteurs de la tech qui crée un format interopérable connecté pour la maison, de domotique. Et d'après ce que j'ai lu, on n'a pas encore reçu l'Apple TV 4K, donc on n'a pas encore testé, mais la grosse différence entre celle qui coûte cher, parce qu'il y en a quand même une qui coûte cher, et celle qui coûte pas cher, c'est qu'il y en a une qui est compatible Matter et l'autre non. Et donc, à même pas un mois de la conférence Matter qui est censée lancer vraiment le protocole avec une communication qui va être probablement énorme autour de ça, en gros, c'est ce qu'on attend depuis 5-6 ans, sortir un device qui n'est pas compatible alors que tous les devices Apple depuis le HomePod mini sont compatibles, je trouve que c'est mettre des bâtons dans les roues au consortium, quoi.
C'est surprenant, effectivement. Écoute, je ne savais pas. Mais, entre parenthèses, celle qui est plus chère, elle reste moins chère que le modèle précédent. Donc, je le mentionne comme ça rapidement, mais effectivement, et la télécommande Siri est en USB-C, donc on est vraiment en train de passer à l'USB-C. Mais du coup, oui, effectivement, à vérifier, mais si effectivement il n'y a pas de compatibilité Matter, bon, après tout le monde aura un autre appareil, un iPhone, un truc chez soi qui fera fonctionner le truc, j'imagine. Mais... donc à noter, effectivement, tu as raison. Et puis l'autre chose, c'est le lancement de iOS 16.1 et iPadOS 16.1 avec macOS Ventura. Le truc que je retiens de tous ces lancements, c'est le fait que la fonctionnalité Stage Manager, qui fait en gros du multitâche sur iPad, elle n'est toujours pas prête. Elle a été modifiée pendant des mois et des mois pendant la bêta et ça reste incomplet, difficile à comprendre, avec des fonctionnements qui vont vous confuser sur votre iPad. Sur macOS, ça marche un petit peu mieux, mais sur iPad, visiblement, ce n'est pas prêt du tout. Donc, bon, peut-être pour une version 2 l'année prochaine, mais tu confirmes, hein,
Nicolas Lelouch qui a testé chez nous, donc le test est sorti hier sur Numérama avec d'un côté les iPads et de l'autre côté iPadOS.
Tu l'entendais soupirer devant son iPad dans le bureau d'à côté, c'est ça?
Ouais, mais il y a déjà des absurdités de compatibilité. On se demande pourquoi. Pourquoi Stage Manager n'est pas sur la dernière génération d'iPad, par exemple? Bon, il n'y a pas vraiment de raison. Il y a assez peu de raisons à la compatibilité Stage Manager avec les iPads. Et surtout, ça fonctionne de manière...
Elle est sur les iPads M1, M2 et la génération juste avant. Hein. C'est sur les générations encore d'avant qu'elle n'est pas. Ouais.
Ouais, mais par exemple, les nouveaux iPad 10, les derniers...
Ils ne l'ont pas, tu veux dire. Oui. Non, mais ce n'est pas des pros. C'est pour ça. C'est pas des pros.
Et alors ils ont un clavier, ils ont un trackpad. Ouais, Stage Manager est assez... En fait, le vrai problème de Stage Manager, à mon sens, c'est qu'il est, il a été repensé déjà plusieurs fois en interne. Donc, on dirait un développement produit Google. Hein, c'est-à-dire, ça passe d'un projet à l'autre et finalement, on sort quelque chose qui est passé par les mains de tas d'ingénieurs et critiques du public entendues, puis plus entendues, puis reconsidérées. Et du coup, il y a des choses qui sont complètement absurdes. Typiquement, la gestion de vos fenêtres, que vous soyez sur un logiciel ou un autre, application Apple comprise, vous n'allez pas pouvoir les redimensionner de la même manière ou les ajouter dans un endroit de l'écran de la même manière. C'est pas Apple, en fait. Il y a un peu un côté sorti à la va-vite qui me rappelle le fiasco Apple Maps, Apple Plan, du coup, de ses premières moutures. Je pense pas qu'on aura un mot d'excuse de Tim Cook cette fois, parce qu'on va pas se mentir, c'est l'iPad et c'est pas de la cartographie, et il y aura pas des gens qui vont se retrouver dans des talus en suivant des routes d'Apple Maps, mais c'est de la bêta, quoi.
Ouais, c'est vraiment le truc, c'est que ce que je dirais, c'est que c'est une refonte d'interface ambitieuse pour amener du multitâche sur l'iPad sans le transformer en système d'exploitation, enfin en interface classique d'ordinateur. Clairement, c'est pas prêt. C'est pas. Et puis il y a des trucs bizarres comme des morceaux d'interface qui se retrouvent au mauvais endroit. Quand on lance un lien, ça va le lancer dans une fenêtre qui est en fait dans un autre groupement de fenêtres. Enfin, c'est au-delà du fait que techniquement la chose ne fonctionne pas parfaitement, ce qui est le cas. Il y a des problèmes de philosophie de design, en fait, qui font que le fonctionnement de cette interface est, je ne sais pas comment dire en français, j'ai un trou, confusing, quoi. Ce n'est pas un fonctionnement où l'action que tu fais va te donner le résultat que tu attendrais. Et ça, en design,
exactement,
c'est un problème.
Exactement, et tu as ça, par exemple, tout bête, quand tu as deux applications sur un stage et que tu as par exemple Safari dedans, tu as ta galerie de l'autre. Si tu veux faire un glisser-déposer d'une photo, Safari va être une sorte d'image verrouillée de Safari. Et donc ta photo, tu la glisses-déposes sur Safari et ça fait rien. Donc tu actives Safari d'abord avec un doigt sur le stage manager et ensuite que tu glisses, alors de manière assez contorsionnée, hein, essayez de vous figurer, avoir vos doigts sur l'écran, un doigt. Sur la galerie, un doigt sur la photo et un doigt qui active Safari pour glisser déposer ta photo dans Safari.
Ouais. Je pense que c'est le genre de truc qui nécessite qui est très ambitieux, qui nécessitera encore quelques mois de travail, peut-être que pour iOS 17 ça sera iPadOS 17 ça fonctionnera un peu mieux. Donc voilà pour les annonces d'Apple, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter.
Il y a quand même un sujet que tu avais mis dans ta revue de presse qui est assez étonnant cette année, c'est que on comprend plus rien au line-up iPad.
Vas-y.
Ouais, mais une reco à la Pepe Garcia acheter ça, je pense que personne ne peut la faire aujourd'hui. C'est acheter un iPad 10 si vous avez plus d'argent qu'avant, parce que finalement, il est beaucoup plus cher que l'iPad 9, mais il a des choses vraiment moins bien que l'iPad Air, qui a lui aussi des choses vraiment moins bien que l'iPad 10. Mais l'iPad Air, vous le trouvez moins cher en promotion. Genre, vous allez sur Amazon, probablement aujourd'hui, il a 10% de moins. Donc finalement, vous avez un iPad avec un Core M1 moins cher qu'un iPad avec un processeur A15. L'iPad Pro, il est tarifé extrêmement cher. Et par exemple, tu vois, c'est un détail, mais le clavier avec trackpad de l'iPad 10, donc l'iPad qui est censé être
un nouveau clavier...
Public,
l'iPad, voilà. Le clavier folie.
Il y a un trackpad plus grand que celui de l'iPad Pro. C'est pourquoi tu fais... Il a une ligne de commande. Tu sais, là, sur un Mac, tu as
une ligne de touches de fonction.
Voilà, les touches de fonction sont apparentes sur ce nouveau clavier, qui est un clavier censé être adressé au grand public, alors que le clavier pensé pour les iPad Pro, les professionnels qui ont besoin de rapidité, ne l'a pas. Tu vois les absurdités, et donc tu peux pas. C'est super dur en 2022 de dire aux gens cet iPad qui est fait pour vous.
Ouais.
Il y aura toujours des mais. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre. C'est assez rare qu'une année soit aussi confuse chez Apple. Et je pense qu'ils sont vraiment dans une reformation un petit peu de leur gamme qui va peut-être devenir moins idiote en 2023.
Ouais, je pense qu'il y a effectivement une refonte de la gamme qui va arriver. Peut-être qu'il y a des nouveaux iPad Pro qui sont avec un design un tout petit peu différent, ne serait-ce que la caméra au milieu du côté long pour les meetings. Ne serait-ce que ça, on imagine que ça va arriver. On nous dit dans la chatroom, oui, c'est un peu comme la ligne des téléphones avec les 14, 14 Pro, 14 Pro Max Turbo Alpha. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les téléphones, il y a les normaux 14 et les normaux Pro, enfin, et les Pro, il y a deux modèles de chaque, donc ça va. Là, vraiment, sur les iPads, on a les normaux, les mini, les Air, les Pro, et les fonctionnalités se recoupent et se chevauchent complètement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de recommander un iPad.
Là où je rejoins notre... Je rejoins l'auditeur qui a parlé de ça, c'est que les iPhone 14 sont aussi très confus. C'est un produit qui vaut cher, qui n'a pas de très très grandes améliorations par rapport à l'iPhone 13. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on recommande aujourd'hui ?
Ça sent vraiment les produits qui ont été sortis parce qu'il faut un renouvellement annuel. Et qui n'ont pas énormément à proposer. Je pense que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus convaincant. Mais
on sera réglé. Oui. Et ajoute à ça une crise mondiale qu'on connaît et Apple qui s'est fait plaisir avec les prix, ce qui fait que même les vieux produits ont été augmentés. Donc, tu as un iPad mini qui a pris je crois, une centaine d'euros. Tu dois acheter un iPad mini à 659 euros aujourd'hui. C'est hallucinant, en fait.
Bon, écoute, je crois que du côté de Google, ils sont un petit peu plus inquiets que toi sur la solidité d'Apple, parce que c'est un truc qu'on disait malgré tout, malgré les problèmes qui sont difficiles à nier, de clarté sur la gamme d'Apple, leur succès indécent est indéniable. Et on disait, bah oui, Apple est en train de conquérir des parts de marché, et Google, à côté de ça, dans le matériel, ils sont hésitants, c'est une manière gentille de le dire. Et il y a des rapports qui nous apprennent que, visiblement, Google est inquiet de la puissance d'Apple. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train de se reconcentrer sur leur matériel pour offrir quelque chose, en parallèle de Samsung, pour offrir quelque chose qui soit compétitif avec les offres, je dirais, de matériel, mais aussi d'écosystème d'Apple. Donc ça, c'est juste un petit indice. Hein, c'est des sources qui nous le disaient. À côté de ça, on a des informations sur YouTube, toujours en parlant de Google. Une statistique intéressante: il y a aujourd'hui autant de gens qui regardent YouTube sur les télévisions que sur d'autres appareils. Alors, ça ne veut pas dire que... Donc, on a 20 millions de Français qui regardent YouTube sur la télévision et 40 millions en tout. Alors, les gens qui regardent sur leur télévision regardent certainement aussi sur d'autres appareils, mais c'est important parce que YouTube sur la télévision, bah, ça commence à peut-être venir chatouiller, menacer, titiller les acteurs traditionnels de la télévision. Si 20 millions de personnes regardent YouTube sur la télévision aussi, c'est du temps qu'ils ne passent pas. Là, pour le coup, il n'y a plus à tortiller. C'est du temps qu'ils ne passent pas à regarder d'autres choses, des chaînes traditionnelles sur la télévision. On apprend aussi qu'il y a 5 000 chaînes françaises, enfin en France, qui ont plus de 100 000 abonnés et 500 qui ont plus d'un million d'abonnés. Donc c'est un écosystème extrêmement riche. Je continue peut-être un petit peu avec des sujets un petit peu plus difficiles du côté de Google toujours. Il y a une étude qui a montré que sur YouTube, contrairement à ce qu'on pense, c'est étonnant, mais une étude a montré que si YouTube recommande effectivement des contenus plutôt à droite, donc plutôt conservateurs, quelles que soient vos tendances politiques aux spectateurs, enfin aux gens qui regardent YouTube, c'est une étude aux États-Unis, hein, donc spécifiquement, mais il montre qu'effectivement, on vous recommande des contenus qui sont plutôt à droite du spectre politique, mais un peu à droite. L'étude en question confirme la chose, mais infirme l'idée qu'ils vont... Alors, au-delà, évidemment, que ça peut arriver, mais infirme l'idée que YouTube va vous orienter systématiquement vers des contenus extrêmes. Les chercheurs expliquent l'orientation à droite par le fait que, chez les conservateurs, on a peut-être tendance à faire un petit peu plus de sensationnalisme, et du coup, ça fonctionne avec l'algorithme. Donc ça, c'est une... Je te donne la parole dans une seconde, je finis juste sur YouTube et Google. Les Républicains aux États-Unis ont lancé un procès à Google pour Gmail. Vous vous souvenez que on vous informait, enfin on vous disait il y a quelques semaines que le Parti républicain aux États-Unis était très mécontent du classement en spam des emails de campagne qui étaient envoyés à des électeurs qui utilisent Gmail. Donc Gmail les plaçait en spam parce que les pratiques étaient un peu spameuses avec des graphiques et des fréquences d'envoi qui étaient importantes, plusieurs mails par jour, parfois beaucoup. Et Google donc avait fait un programme pour réguler tout ça dans lequel le Parti républicain a refusé d'entrer. Et maintenant, il faut un procès, ce qui on pourrait en arguer, mais en gros, c'est quand même problématique parce que le Parti républicain en fait voudrait envoyer ce qui en pratique du spam, ça it quacks like a duck and walks like a duck, je crois que c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, sans se faire classer en spam. Donc l'imposer c'est presque comme, je ne sais pas, vous imposez qu'un démarcheur vienne chez vous, sonne à votre porte et qu'on vous interdise de lui dire ne venez pas chez moi, quoi. Bref, dernière chose dans ce domaine, il y a encore une autre recherche qui était intéressante. Des chercheurs ont envoyé 20 publicités avec de la désinformation évidente, comme par exemple, encore aux États-Unis, hein, vous savez que les élections parlementaires arrivent, de la désinformation évidente, comme par exemple des fausses informations sur les dates de vote, les bureaux de vote, etc. Ils les ont envoyés à TikTok, Facebook et YouTube. TikTok en a approuvé 90%, Facebook en a approuvé beaucoup, mais YouTube n'en a approuvé aucune. Donc, là encore, ce n'est pas pour faire plaisir à Google et YouTube, mais c'est intéressant de voir que, en l'occurrence, sur cette recherche spécifique, YouTube a eu un bon travail de modération sur les publicités. Alors, ça fait beaucoup de sujets différents. Je suis désolé, Julien. Je te laisse la parole pour que tu nous dises lesquels t'ont intéressé.
C'est vrai que c'est intéressant, le tout dernier, en réalité, que TikTok... En fait, on est sur des maturités différentes, je pense, et des maturités et des enjeux différents. Je pense que quand on est Google, on ne peut pas se permettre de faire ça. Quand on est TikTok, encore en croissance, qui rafle évidemment, qui a des scores de croissance à deux chiffres, qui aussi est opéré, certes, en Europe et aux États-Unis par des entités locales, mais ça reste une application chinoise, hein, qui n'a pas non plus encore de... qui n'a pas eu de scandale de ce type dans son pays, parce que bah, elle ne le peut pas. Hein. On a vu le comité du Parti communiste chinois qui s'est terminé. Ce n'était pas des élections. Hein. Donc c'était... Il n'y a pas eu vraiment ce genre de scandale et de prise de considération de ce qu'est une fake news et de forcément, disons, son impact sur la société à moyen et long terme. Du coup, ça ne m'étonne pas du tout comme chiffre et que YouTube ait changé par rapport à 2018, 17-18, quand on a commencé à parler de ça. Je trouve que c'est un changement qui me semble assez normal dans le fond.
C'est normal et c'est positif. Moi, je t'avoue que sur les 20, bon, bah, c'est bien, ils ont un bon travail de modération. Là où c'est... peut-être normal, mais de manière un petit peu plus défaitiste, c'est que Facebook en a approuvé plein aussi, quoi. Alors, ils n'ont pas donné le chiffre exact, mais Facebook, qui pour le coup n'a pas l'excuse dont tu parles de la jeunesse et de la phase de croissance de TikTok, eh ben, ils en ont quand même approuvé plein. Et on sait que c'est aussi, et peut-être même plus sur Facebook que sur YouTube, que ce genre de désinformation a un effet, quoi. Donc...
Ouais. Grosso modo, Facebook et Twitter ont des problèmes côté modération, on le sait, et peut-être des ingénieurs moins qualifiés, je vais pas dire qualifiés, mais moins incentivés à travailler sur les algorithmes de modération qui permettent à YouTube de flaguer directement en amont qu'une vidéo est fausse ou qu'elle a un template faux, quoi.
Peut-être, ouais. Moi, j'imagine que sur les publicités, ils ont une équipe, dès que c'est classé politique, chez YouTube, j'entends, dès que c'est classé politique, il y a une équipe qui regarde ça, des humains qui regardent ça, et ce n'est pas le cas sur Facebook. Parce que la désinformation en question était tellement évidente que c'est si quelqu'un le voit.
Tu sais, dès le Covid, ils avaient commencé à avoir même côté édito des sections où, en fait, c'était encore plus simple. Ils faisaient une waitlist finalement de médias et de sources avec qui ils travaillent. Je sais que Numérama avait été sur la santé pendant le Covid. Et donc en gros, tout ce qu'ils mettaient en avant, alors pas en ad, mais en édito.
En recommandation.
Ouais, en recommandation sur la home, c'était des médias avec qui ils avaient dit « Ok, vous pourrez être dans ce carrousel ». Donc en fait, finalement, c'est une modération a priori qui est extrêmement, enfin qui restreint énormément la portée d'une info que tu contrôlerais pas.
Écoute, c'est pas souvent qu'on dit du bien de YouTube sur les questions de l'information, donc marquez cet épisode d'une pierre blanche. On va parler peut-être vers la fin de Twitter aussi et de ses perspectives avec Elon Musk un tout petit peu. Mais avant, je voudrais dire encore un mot sur ce qui se passe avec les réseaux sociaux et la Chine. D'une part, une petite mention de WeChat, qui est une application de chat chinoise qui est beaucoup utilisée par les ressortissants d'origine chinoise aux États-Unis et qui est du coup devenu l'un des vecteurs de désinformation principaux dans cette communauté à l'aube des élections. Donc, c'est juste parce que je voulais parler de la Chine pour dire autre chose. On parlait il y a une ou deux semaines de AirDrop, vous savez, cette fonctionnalité d'Apple des appareils iOS qui permet d'envoyer un fichier et une photo à n'importe quel appareil Apple dans les environs, dans les quelques mètres, qui a la fonctionnalité activée, et elle est activée par défaut. Alors, on disait que c'était un gros problème parce que ça permet aux gens d'envoyer des photos, des dick pics, ce genre de choses qui sont des moyens de harcèlement. Eh bien, le revers de la pièce, c'est ce qui se passe en Chine. Une chose qui a été remarquée ces derniers mois, c'est l'utilisation de cette même fonctionnalité, AirDrop, pour la diffusion de messages anti-Xi Jinping, enfin contre le parti de résistance. Et du coup, comme c'est très difficile de savoir qui dans les environs a envoyé l'image et qui a en plus une petite preview dès qu'on vous demande si vous voulez la recevoir, eh ben, ça permet aux gens d'envoyer des images sans se faire traquer. Parce qu'évidemment, vous savez qu'il y a toute une infrastructure de tracking, des caméras, surtout Internet, etc. Et bien là, ça leur permet de partager des messages contre le gouvernement, ce qui est une fonctionnalité intéressante. Et puis, puisqu'on parle de problèmes de sécurité, il y a des chercheurs qui ont trouvé un moyen d'utiliser Signal et WhatsApp pour déterminer la localisation de la personne à laquelle ils envoient un message. Et vous allez me dire, mais attendez, Signal, WhatsApp, c'est super chiffré, enfin surtout Signal, comment ils font ? C'est vraiment malin, et comme quoi il y a des moyens de détourner les usages, quoi qu'on fasse. En fait, quand vous avez un avis de réception à un message qui vous avait été envoyé, et que vous connaissez la personne, ou que la personne vous connaît, sait où vous allez, eh bien, si elle peut déterminer que vous êtes soit au bureau, soit chez vous, soit dans votre maison de campagne, et qu'elle sait que dans votre maison de campagne, vous avez un réseau un peu moins rapide, qui est connecté moins vite, eh bien, en fonction du temps que met l'avis de réception à revenir sur le téléphone de la personne qui vous a envoyé un message, on peut déterminer que là, vous êtes dans un endroit où vous avez un réseau un peu moins rapide, et donc on peut savoir où vous êtes. C'est un cas vraiment d'usage très spécifique, mais j'ai trouvé l'ingéniosité des chercheurs et du fait de noter cette problématique assez intéressante. Alors, ça peut peut-être être résolu assez simplement avec un temps minimum avant la validation de l'accusé de réception, par exemple. Mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant et ingénieux comme faille de sécurité, quoi. Mais celle, à vrai dire, le sujet qui m'a le plus intéressé là, c'est vraiment cette histoire d'utilisation d'AirDrop, parce que il y a deux semaines, on disait c'est utilisé pour du harcèlement, pour des dick pics, ce genre de choses, et là tout à coup c'est utilisé en Chine pour combattre la censure d'un des gouvernements les plus stricts du monde. Donc j'ai trouvé le parallèle, le contraste intéressant, quoi.
Bon, ouais.
Quoi d'autre ? Alors là, ça va aller un petit peu plus vite. Snap, est-ce que tu utilises Snapchat, toi ? Est-ce que tu fais partie des gens jeunes ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, ni Oui, Biril, je vois que tu l'as dans les sources un peu plus loin.
Oui, Biril continue sa progression. Tu n'es pas sur Biril, mais décidément, tu es un vrai
boomer. Non, j'ai essayé 2 jours et après j'ai arrêté parce que j'arrive pas en fait à accrocher à ça. Après, j'imagine que c'est des applications qui se basent beaucoup sur une communauté d'utilisateurs. Et quand je vois les ados autour de moi, que ce soit dans la famille ou quoi que ce soit, qui sont sur Snapchat, oui, ils sont tous arrivés sur Snapchat en même temps. Que finalement, tous leurs amis sont sur Snapchat. Biril, ça doit être la même chose. Enfin, quand je suis seul sur Biril avec une autre personne de la rédaction qui l'a installé pour tester, c'est pas nous qui allons créer une communauté, quoi.
Non, mais t'as raison, c'est une question de génération aussi. Nous, on est plus génération Twitter, quoi. Je sais pas si c'est... ça fait un peu peur carrément. Quand tu dis génération Twitter.
Non, mais carrément. Mais après, il y a des apps qui peuvent arriver très vite où l'usage peut être immédiat, même dans ma génération, je pense. Mais tu vois, il faut qu'en fait toute une génération s'y mette en même temps, quoi. Tu vois, je suis sur TikTok à fond, genre tous les jours, j'envoie TikTok à mes copains. Enfin, c'est une app qui m'a complètement convaincu.
Bon, d'accord. Tu ressors de la case boomer dans laquelle je t'avais placé. Bah du coup, Biril, oui, ils ont levé 60 millions encore, ils ont 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Alors, c'est pas les, ne serait-ce que Twitter, qui est un petit réseau au final, les 350 millions de Twitter, mais 20 millions, c'est quand même pas mal pour une app qui a commencé à décoller il y a à peu près un an. Et puis, je voulais mentionner Snapchat parce qu'ils ont un abonnement et c'est l'un de leurs moyens de monétisation. Ils ont un abonnement à $4 par mois. Ils ont ajouté des fonctionnalités, mais à la limite, ça importe peu. C'est l'un des seuls réseaux sociaux, à ma connaissance, qui ne fonctionne pas avec la publicité uniquement. En tout cas, je ne sais pas s'il y a de la pub à côté de ça, mais ils ont un abonnement, le Snapchat Plus, et je trouve ça intéressant parce Twitter, que du coup... Pardon ?
On a Twitter maintenant, on a Twitter Blue.
Oui, alors c'est uniquement aux États-Unis et puis il y a beaucoup, beaucoup de publicité aussi sur Twitter, mais peut-être que Twitter Blue continuera à son extension, mais sur Snapchat, du coup, ça influence évidemment le fonctionnement du réseau quand on a un modèle d'affaires par abonnement plutôt que par publicité, eh ben, on n'a pas cette pression d'afficher toujours plus, d'étendre le nombre. Et afficher plus, ça veut aussi potentiellement dire mettre en avant les choses qui font le plus cliquer et donc les fameux problèmes d'algorithme qui font le plus appel aux émotions, peut-être négatives parfois. Donc ça, c'est intéressant. Alors, à noter pour...
vrai sujet, mais il faut savoir que Snap s'est séparé de 20% de son taf, c'est-à-dire 1200 employés, a fermé une de ses boîtes les plus importantes qui était Snap Maps, hein, du coup Zenly en France. Marche pas en fait leur truc. Ils sont en restructuration, ils ont fermé leur division hardware, donc il n'y aura plus de drones, plus de... Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, ils avaient refait une conférence en disant on n'est pas un réseau social, on est... The Video Company,
ouais, ou The Photo, ou The Visual Company, un truc comme ça, oui, ça a eu l'air d'aller très loin. Ça
n'a pas marché du tout. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché chez Snap ces dernières années. C'était quoi? C'était en août, ils ont confirmé 20% de licenciements. C'est énorme pour une masse salariale d'un réseau social.
Bah justement, ça fait écho à un truc dont on va reparler dans un instant pour Twitter. là encore, on y revient. Et Blue Sky, qui est un protocole développé par un petit groupe indépendant, pas au sein de Twitter, mais financé par Twitter et par Jack Dorsey. C'est pour, en fait, l'idée, c'est d'avoir un protocole de diffusion comparable à Twitter, mais pour lequel n'importe qui pourrait développer une app et n'importe qui pourrait développer un algorithme et on pourrait choisir son propre algorithme. Eh bien, ils viennent de publier la version la version publique de leur protocole qui s'appelle le AT, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bon, ils viennent de publier leur protocole. C'est un projet qui est vraiment intéressant, mais la réaction de beaucoup de gens qui sont dans le domaine, ça a été, mais on a déjà un protocole comme ça, c'est celui qui sert à Mastodon, c'est celui qui sert à, je ne sais plus comment il s'appelle, Pixel, enfin bref, il y a un équivalent d'Instagram. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait celui-là plutôt que ceux qui existent déjà? Alors peut-être qu'il y en a qui ont des avantages ou des inconvénients. Mais je me demande en fait pourquoi ils n'ont pas essayé de développer le protocole qui existait déjà, peut-être de s'y associer, de l'améliorer, bref. Mais en tout cas, il est désormais disponible. Il était déjà disponible, à vrai dire, depuis un moment en bêta et on n'a pas vu beaucoup d'apps se développer dessus. L'autre info plus intéressante encore dans le domaine des réseaux sociaux, c'est que Meta est obligé de revendre Giphy. Vous savez que Giphy, c'est ce catalogue de, d'images GIF animées. Je dis GIF et Giphy, oui. Ou non, Giphy et GIF. Eh bien, l'autorité de la concurrence anglaise, les Américains avaient accepté le rachat, mais l'autorité de la concurrence anglaise a émis un avis plus que négatif. Ils ont interdit le rachat, en tout cas sur le marché anglais. Et du coup, Facebook a été contraint de revendre Giphy, ou enfin, en l'occurrence, ils vont les revendre bientôt, parce que le marché, l'autorité anglaise, le CMA, qui s'intéresse d'ailleurs au rachat de Activision Blizzard par Microsoft, donc information à mettre dans un petit coin. Pourquoi ? Parce que ils estimaient que Giphy a tellement d'importance que ça pouvait, Facebook aurait pu choisir d'en priver des concurrents, ou alors, même s'ils les laissaient les utiliser, ça leur permettait de recueillir des informations sur les utilisateurs des concurrents qui leur donnaient un avantage injuste sur le marché. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que Facebook va devoir revendre Giphy parce que l'Angleterre a dit non, non, ça ne va pas. C'est presque, pas forcément inattendu, mais je m'y attendais pas quand même, je crois.
Ah ouais, c'est comme quoi des autorités peuvent faire capoter une vente. On n'imagine pas que c'est encore possible que le pouvoir politique ait cette liberté, et pourtant si.
Ouais. C'est vraiment... ça a toujours été possible, mais c'est rarement implémenté. En l'occurrence, c'est un bon coup de règle sur les doigts, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, Uber est en train de lancer une division. C'est vraiment lightning round de plein de d'infos hein, aujourd'hui. Uber est en train de lancer une division pub qui va mettre de la pub donc dans les apps et sur les voitures, peut-être pas dans tous les pays, qui devrait se lancer en 2024. Et pendant ce temps, chez Apple, ils mettent aussi de la pub un petit peu partout sur leur App Store. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils rajoutent encore des emplacements de pub. C'est encore plus vicieux chez Apple parce que ça oblige les développeurs d'app à acheter les termes, c'est le même problème sur YouTube, sur Google, YouTube et ailleurs, hein, mais ça oblige les développeurs d'app à acheter les termes de leurs apps pour qu'ils ne soient pas achetés par les concurrents et qu'ils n'apparaissent pas, du coup, que leurs concurrents n'apparaissent pas quand on fait une recherche sur leur nom à eux. C'est un petit peu vicieux, ce genre de pratique, et Apple ne s'en prive pas, quoi.
C'est comme ça, à chaque fois qu'il y a de la pub, hein, les concurrents s'achètent aussi sur Google les premiers résultats. J'ai pas envie de faire le test en live, mais si vous tapez Uber dans Google, j'imagine que vous avez chauffeur privé et autres applications qui vont apparaître dans les résultats sponsorisés.
Ouais. C'est un peu plus frappant, je trouve, sur l'App Store, parce que l'image de l'App Store, c'est quelques grosses apps et puis beaucoup de petits développeurs indépendants, justement, qui ont accès au marché grâce à ce store qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Et du coup, c'est presque un petit peu plus un coup de poignard, quoi, ouais. Je trouve, dans les...
Je suis assez d'accord avec toi, ça devient assez impressionnant. En parlant, j'ai fait les tests. Quand tu tapes Uber, effectivement, Uber a acheté son propre emplacement. FreeNow a acheté son propre emplacement. Donc finalement, ils sont deux fois en haut. Mais ça reste aussi de l'advertising, à mon sens, comment on appelle ça, en programmatique et avec donc des enchères. Parce que tu vois, si je retape Uber... j'ai Uber Eats qui est au-dessus, et puis ensuite j'ai Hitch qui arrive. Donc en gros, peut-être que l'enchère de la première fois, elle est très élevée, il n'y a que Uber qui peut se la payer. Mais ensuite, si je suis un utilisateur qui a tapé deux fois Uber dans l'App Store, l'enchère est moins chère, et du coup, j'ai Hitch qui peut se permettre de mettre de la pub devant, quoi.
Intéressant, ouais. Bah en tout cas, Apple, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire dans la pub et du coup, ils font de la pub partout sur l'App Store. Et c'est un gros business, hein, ça se compte en milliards. Donc, bon, ils mettent le pied sur l'accélérateur. Alors, on voulait parler de Twitter juste en un mot et puis après, j'aurai des bonnes nouvelles pour conclure. Il semblerait que si Elon Musk rachète Twitter, c'est pas encore sûr, hein, cette histoire. J'ai vu des analyses qui disent « Ouais, non, mais en fait, il est pas trop chaud, mais il a fait ça pour pas témoigner devant le juge, machin. » Mais bon, on va voir, ils disent qu'ils sont en train de trouver un accord. Et ça devrait se terminer là, dans les quelques jours, hein, parce que le tribunal a dit « Vous faites ça avant le 28. » Si Elon Musk rachète Twitter, il compte renvoyer 75% des employés. C'est, enfin, vraiment, ce dont Twitter a besoin, c'est moins de gens qui bossent sur le produit. Hein, ça, c'est sûr. Et à vrai dire, même si Elon Musk ne rachète pas, il semblerait que Twitter ait prévu de licencier 25% de, son, de sa masse salariale, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si, on, si les gens qui travaillent chez Twitter sont très contents et sont très motivés à travailler sur le produit en ce moment. Hein. Ça a l'air d'être assez compliqué.
L'ambiance doit être assez difficile. Et puis, d'autant que Twitter... comme tu l'as dit, hein, Twitter Blue dont je parlais n'est disponible qu'aux États-Unis, donc finalement c'est un réseau publicitaire qui a des emplacements et une capacité à faire de la pub finalement assez premium, hein, avec du pré-roll, de la vidéo, enfin, c'est assez bien fait, hein, Twitter en termes publicitaires. Elon Musk déteste ça, il a dit qu'il allait couper, donc bon, admettons. Mais en même temps, Elon Musk dit beaucoup de choses sur ce sujet-là, et je suis assez d'accord avec toi et l'analyse que tu rapportais. Il n'a pas envie de le racheter, il a envie de faire capoter la vente. Maintenant, voilà, à quel point il va être forcé à racheter. Et s'il est racheté, est-ce qu'il va tout foutre en l'air en créant son app qu'il a appelé X, etc. Enfin, c'est assez absurde.
Ah bah écoutez, là on aura la réponse, normalement c'est d'ici le 28, donc on est à quelques jours, on pourra vous en reparler, joie, dans le prochain épisode. Allez, quelques bonnes nouvelles pour conclure. Meta, Facebook, qu'on critique souvent avec raison, a présenté un nouveau moteur créé par intelligence artificielle qui permet de traduire des langues qui ne sont pas écrites. Visiblement, alors je l'ai appris par l'article de Engadget, la moitié des 7000 langues connues dans le monde sont, enfin, la moitié des 7000 langues connues ne sont pas écrites. Et tous les outils qu'on a de traduction sont basés jusqu'à maintenant sur des écrits. En fait, on traduit beaucoup plus par l'écrit que par la voix directement. Quand on veut traduire quelque chose par la voix, c'est passé par l'écrit. Et c'est en fait l'équivalence de textes, de textes traduits sur lesquels sont entraînées les intelligences artificielles. Et c'est comme ça qu'on passe à des, qu'on crée des algorithmes qui peuvent traduire les choses. Quand il n'y a pas de texte, forcément, c'est plus compliqué. Alors là, en l'occurrence, ils passent par un langage qui leur permet de faire le pont entre différents autres. Mais du coup, ils ont... Pardon ?
C'est un langage pivot, on appelle ça.
C'est ça. Et du coup, ils ont réussi à créer une première étape, donc pour une des langues, qui permettrait de traduire ces langues qui ne sont pas écrites. Donc voilà, un petit peu de bonnes nouvelles. Et ça vient de Meta en plus. C'est assez...
excellents, hein, là-dessus. C'est incroyable le nombre de papiers de recherche qui sortent tous les ans sur la traduction et la compréhension naturelle du langage par leurs algos et leurs IA. Le laboratoire, d'ailleurs, j'en parle un peu parce qu'il est à Paris. La plupart des ingénieurs, du moins le gros pôle de recherche, est à Paris et européen. C'est des travaux... absolument sublime sur la manière de comprendre nos langages et qu'est-ce qui fait une traduction et finalement qu'est-ce qui fait une langue. Ils sont en train de craquer la manière de comment est conçu finalement un langage. Et ça, c'est assez hallucinant.
J'imagine qu'ils ont un avantage compétitif à le faire aussi peut-être du côté de Facebook, mais en tout cas, ça donne des outils.
Ne serait-ce que par... imagine un réseau social où il n'y a même plus de barrière de langue, et c'est un peu ce que disait aussi l'article d'Engadget, hein, c'est réseau social, mais également métavers et compagnie, là, si un jour ça sort, la barrière de la langue peut être complètement annihilée. Et du coup, tu mets en rapport plus des zones géographiques ou des zones de langage, mais tu mets dans le même panier le nombre de milliards d'humains que tu as sur ta plateforme sans qu'il y ait de... Voilà, sans qu'il y ait de barrières, de frontières. C'est assez incroyable comme perspective.
Et le traducteur universel de Star Trek, quoi.
Exactement.
Allez, une nouvelle peut-être un peu moins importante, mais qui m'enthousiasme moi tout de même. Pocket Casts, qui est une des applications de podcast les plus utilisées, qui a été rachetée par Automatic, qui est la société parente de WordPress. Eh bien, Pocket Casts a été open sourcé cette semaine. Le code est disponible sur GitHub, de la même manière que WordPress est open source aussi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une application au moins, de la même manière qu'il y a un CMS au moins, bon, il y en a plusieurs, mais open source, que n'importe qui peut utiliser, qu'on peut forquer, faire créer sa propre app, la changer, etc. Alors, bien sûr, c'est open source, et donc c'est open, licence open source, mais dans le domaine du podcast, qui a toujours été plus libre et plus ouvert que d'autres types de médias, et on le voyait la semaine dernière, qui semble être difficilement enfermable dans une boîte de Spotify ou d'Apple, bah ça continue, ça pérennise en tout cas la possibilité d'avoir des applications disponibles facilement, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est là encore un article de Numérama sur l'un des candidats aux élections danoises de novembre, qui est une intelligence artificielle. Alors c'est un article d'Horrorgate qui est plus pour la blague, hein, soyons honnêtes, qu'autre chose. Il y a un collectif d'artistes qui a créé une intelligence artificielle qui est candidate, pas officielle, je crois pas, si j'ai bien compris, que son nom soit sur les ballots, hein, non plus, mais qui est genre candidat ou candidate aux élections. Et donc, Horrorgate a discuté un petit peu avec l'IA, dont j'ai le nom m'échappe d'ailleurs, je ne me souviens plus, Leader Lars. Ouais. C'est amusant, c'est quand même très... Comment dire, ça reste très clairement du niveau de la blague ou de l'expérience artistique. C'est plus une blague. Est-ce qu'on va vouloir extrapoler sur le jour où une IA sera véritablement candidate ou leader d'un parti politique? Je crois que c'est un peu tôt. Mais
une nouvelle d'Asimov, hein, qui va enfin même plusieurs, où les IA dirigent la Terre avec chacune la responsabilité d'un continent, et elles déclenchent des guerres quand elles ont des crises de démographie. Elles font le meilleur pour l'humanité. elles sont programmées pour ça. Et pour l'humanité en général. Donc sacrifier 1 million d'humains, finalement, si ça aide à l'humanité à survivre, ça rentre dans leur programme, quoi. C'est tout le génie d'Asimov de faire ces
conundrums moraux, ces problèmes moraux.
Ouais, complètement. Mais oui, ça existe. Et je me souviens, j'en avais parlé très longuement il y a quelques temps avec un chercheur de l'INRIA qui s'était aussi spécialisé sur la décision côté algorithmique. Et on avait beaucoup parlé de ce concept de décider en politique, donc finalement faire un choix. Qu'est-ce que ça recouvrait? C'était passionnant. Faudrait que je retrouve mes notes là-dessus et peut-être un jour en faire une vidéo, qui sait.
Ça serait intéressant, effectivement, parce que, en l'occurrence, cette IA, aussi basique soit-elle, elle a l'air quand même pleine de bonnes intentions, du genre qui ne dénoterait pas dans un roman d'Asimov, en fait. Les bonnes intentions du genre, oui, il faut faire des choses bien, on va accroître l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles. Ok, oui, très bien, c'est effectivement, pourquoi pas. Mais la conclusion est très bien écrite. Le président, enfin, le candidat Leder Lars trouve que n'importe quel robot pourrait être un bon président s'il était programmé pour être un bon leader. Mais heureusement, Lars me l'assure, je suis programmé pour être bon leader. Donc, super, on est rassuré, tout va bien. Ouf ! Ah bah si t'es programmé.
Faites-moi confiance.
C'est ça. Et c'est sur cette excellente conclusion qu'on va également conclure l'épisode. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir accompagné dans ce grand panorama. Merci. Je crois qu'on n'a jamais traité autant de news que dans cet épisode. Il y avait presque quoi, 70 lignes, peut-être un petit peu moins de news quand même. Merci à toi, Julien. Dis-moi, avant de nous quitter, où peut-on te retrouver sur Internet ?
Eh bien, moi, personnellement, un peu partout, mais j'aimerais surtout profiter d'être invité dans ton podcast, ce qui est toujours un grand plaisir, pour une petite annonce côté Numérama et podcast. On a sorti une première série audio, c'est pas du podcast conversationnel, c'est une narration sur ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, le thème est triste parce que c'est la sixième extinction, mais on a essayé de la raconter un peu comme un conte et avec des histoires à chaque fois autour d'un animal qui est en train d'être sauvé par les humains qui font parfois des choses bien. Donc voilà, ça s'appelle tout simplement la 6e extinction et c'est disponible partout sur toutes les plateformes. Donc ça me ferait plaisir si vous l'écoutiez et que vous nous disiez si ça vous plaît et si ce genre d'expérience est à renouveler.
La 6e extinction disponible sur toutes vos applications de podcast. Effectivement, à ne pas rater. Merci beaucoup, Julien, de ta présence dans l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur tous les réseaux sociaux, vous le savez. Vous avez aussi notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, mais surtout dans les notes de l'émission, vous avez déjà accès à tous les liens importants. Le Discord, où on a plein de conversations super sympas avec des gens super sympas. Le Twitch, la chaîne Twitch, où on diffuse en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et puis, quoi d'autre ? La newsletter sur notepatrick.com, ou enfin dans les notes de l'émission aussi, toutes les semaines, petite newsletter sympathique avec le meilleur de ma veille et des petits contenus bonus plutôt cool également. Enfin bref, allez voir dans les notes de l'émission, vous trouverez forcément quelque chose de cool. Ah oui, j'ai les vidéos en replay sur YouTube également. Il y a une chaîne dont je ne parle jamais, mais il y a une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver le replay de toutes les vidéos si vous préférez regarder sur YouTube. Et d'ailleurs, dans l'After Show, on va parler un petit peu de Netflix, pour qui tout n'est pas si sombre qu'on croit peut-être, de SpaceX et Starlink surtout, et puis de Parler sur lequel on a des informations après le rachat parier, enfin plein de choses comme ça. Ça sera dans l'After Show pour les Patriotes. Et puis bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission, c'est le moyen de le faire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voyez si vous allez trouver là le niveau de soutien secret qui est extrêmement difficile à trouver. Mais vous avez aussi les niveaux normaux, hein, si vous êtes des gens normaux. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bye bye.
Salut.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.